VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes au Sahel. Au moins 6 membres d'un groupe de djihadistes circulant en moto au Mali, près de la frontière avec le Niger, ont été mis hors de combat par l'armée française dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui en France le porte-parole de l'état-major lors de son point de presse hebdomadaire. Le colonel Patrick Steger a précisé que 5 motos ont également été détruites. Selon le colonel Steger, l'opération a commencé quand un groupe de combattants circulant sur 8 motos a été repéré au Niger. Ils ont été immédiatement pris en chasse par un drone d'observation qui a permis de constater qu'ils avaient franchi la frontière pour pénétrer au Mali. À 19h50 temps universel, un chasseur-bombardier français a mené un raid aérien contre le groupe avant l'intervention de commandos sur le terrain. Surveillant en permanence depuis les airs, les groupes djihadistes au Sahel ont maintenant abandonné les pick-up dans lesquels ils se sont longtemps déplacés, trop facilement repérables, et préfèrent maintenant utiliser de petites motos de fabrication chinoise. Toujours concernant les violences en Afrique de l'Ouest, au Mali, 6 morts et 7 blessés, quand un car de transport privé en provenance de Gao, la grande métropole du nord du pays, a sauté mercredi sur une mine entre les localités de Boni et de Douenza. Les victimes et les blessés ont été acheminés à l'hôpital régional de Mopti. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est après un bon départ dans une ambiance bon enfant que le car se dirigeait vers Douanza. C'est aux alentours du village de Dala, à quelques 35 km de Douanzaville, que le car a heurté un engin explosif. Un grand bruit de l'explosion a attiré tous les riverains. Ces derniers se sont rendus compte qu'un drame vient de se produire. Dans le feu de l'action, les populations sont venues afin d'apporter les secours. C'est ainsi qu'ils ont constaté sur les lieux que 2 passagers sont morts sur le coup. Le détachement de l'armée malienne positionné à l'entrée de Douaza est venu en renfort, soutenu par quelques gendarmes afin d'organiser les premiers constats. C'est après tout cela que les 2 victimes et les blessés ont été transportés vers l'hôpital régional de Mopti. Certains blessés, avant d'arriver à l'hôpital, ont rendu l'âme, ce qui donne un bilan provisoire de 6 morts et 7 blessés. Les forces armées maliennes ont été déployées dans la zone pour faire les premières enquêtes. Et toute la nuit, l'armée a continué sa patrouille et des ratissages tout autour de Dala, lieu de l'accident. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Élections en Afrique maintenant. Au Togo, plus de 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce jeudi pour choisir les 91 députés au Parlement. Les bureaux de vote ont ouvert à 7h heure locale et doivent fermer à 16h. La journée a été déclarée fériée, chômée et payée, selon les autorités togolaises. Peu d'enjeux pour ce scrutin, puisqu'après plus d'un an de crise politique, la principale coalition d'opposition qui regroupe 14 partis, la C14, n'y prend pas part. Élection République démocratique du Congo maintenant, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, réitère que les élections présidentielles, législatives et provinciales auront bel et bien lieu le 23 décembre, balayant les rumeurs d'un éventuel report. La mise au point de la CENI intervient au moment où la campagne pour la présidentielle est suspendue à Kinshasa. Plus de détails sur cette suspension avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire de la capitale congolaise.
La décision a fait l'effet d'une bombe tant les candidats les plus en vue de la présidentielle du 23 décembre prochain comptaient conclure par des grands rassemblements à Kinshasa. Martin Fayulu de la coalition Lamuka avait même prévu un meeting ce même mercredi 19 décembre à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. Le candidat numéro 4 en provenance de Maïndombe a été empêché d'entrer à Kinshasa. Son cortège reste bloqué à Ntsele à l'entrée de la capitale, comme le confirme ici l'un de ses soutiens, le ministre d'État Jean-Pierre Lisanga Bonganga.
On ne cédera jamais à la provocation. Nous sommes sereins, en train d'attendre pour que nous puissions continuer à prendre la route avec notre candidat, le numéro 4, Martin Fayulu, qui est là bloqué dans sa Jeep.
À la place Sainte-Thérèse, où était prévu le rassemblement de Fayoulou, des militants sont encore très visibles malgré une présence importante des éléments de la police. Dans le camp de Félix Tshisekedi, on crie au scandale. Jolino Makelele est le porte-parole de l'UNC de Vital Kamerhe.
C'est la énième manœuvre insupportable du pouvoir en vue de rabattre les caquets des opposants. Le pouvoir en place est aux abois. Il voit comment les leaders de l'opposition, en particulier Fachi numéro 20, comment il est en train de drainer des foules. À Kinshasa, c'est l'apothéose. Vous pensez vraiment que le gouverneur Kimbuta, c'est motu proprio qu'il a pris une décision grave comme celle-là? Ce sont les bonzes de la majorité présidentielle qui, pris de panique, sont en train de fomenter des histoires pour décourager la population.
Au Front commun pour le Congo, coalition au pouvoir, Serge Kadima est le porte-parole du candidat Ramazani Shadary.
Au niveau du Front commun pour le Congo, nous étions amplement préparés pour notre meeting de ce vendredi. Vous-même, vous avez vu le mois passé combien la population congolaise était venue répondre au message du candidat Emmanuel Ramazani Shadary au stade Tata Raphaël. Cette fois-ci, c'était prévu que ce soit au stade des Martyrs. Mais hélas, aujourd'hui, le gouverneur de la ville interdit à Kinshasa des meetings. Donc, nous prenons acte.
Des avis partagés à la cité où les Kinois sont entre regret, déception et réalisme.
Il n'a pas raison. La campagne électorale prendra fin vendredi le 21 décembre. Il y a les candidats qui se sont déjà préparés afin de tenir leur dernier meeting à Kinshasa. Mais malheureusement, ça vient d'être annulé par le gouverneur.
C'est une décision responsable d'une autorité qui a constaté qu'il y avait péril dans la demeure, que la sécurité des gens qu'il est censé assurer était en danger. Vous savez, en 2011, il y avait même eu des morts. Il y avait deux candidats en ce moment-là. Aujourd'hui, il y en a trois, le plus en vue.
Je suis mécontent. En tout cas, qu'on connaît que c'est lui le gouverneur. Il est du côté du pouvoir. C'est ça qu'ils ont fait en 2011. C'est toujours pour bloquer les candidats de l'opposition. L'armée est là, la police est là. Pourquoi pas sécuriser tous les meetings, que ce soit des opposants ou de leur majorité?
Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Élection présidentielle à Madagascar, le dépouillement du second tour de scrutin mercredi continue. Les deux finalistes, Marc Ravalomanan et André Rajoel, se sont déclarés devant leurs partisans hier soir, convaincus de remporter la victoire quelques heures à peine après la clôture du scrutin. La rivalité, voire l'hostilité mutuelle exacerbée entre les deux leaders, fait planer le risque d'une nouvelle crise politique à Madagascar, pays qui en a connu un grand nombre depuis son indépendance de la France en 1960.
VOA Afrique en direct de Washington.
New York, les pays africains du Conseil de sécurité de l'ONU ont annulé mercredi pour la deuxième fois en 10 jours la convocation d'un vote destiné à établir le principe d'un possible cofinancement par l'ONU d'opérations de paix africaines. Et ce, en raison de la menace d'un veto de la part des États-Unis. Porté par l'Éthiopie, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire, le projet de résolution pose le principe d'un possible versement de contributions de l'ONU au cas par cas pour soutenir des opérations de paix menées par l'Union africaine et autorisées par le Conseil de sécurité. Et toujours aux États-Unis, le procureur de Washington, la capitale, a lancé des poursuites contre Facebook sur sa gestion des données personnelles dans le cadre du scandale Cambridge Analytica. Le réseau de Mark Zuckerberg est mêlé à toutes sortes de polémiques. Les détails avec Nathalie Barge.
Facebook est accusé d'avoir laissé les données personnelles de plusieurs millions d'usagers arriver à leur insu entre les mains de Cambridge Analytica, une firme britannique qui a travaillé pour Donald Trump pendant la campagne de 2016. Le réseau social se débat déjà avec une autre polémique. Hier, le New York Times a révélé qu'il a partagé les données de ses utilisateurs avec des géants du web comme Amazon, Spotify, Microsoft et Netflix. Il aurait communiqué à quelques 150 entreprises les messageries privées, les noms des amis ou certaines de leurs publications. Facebook s'est efforcé de minimiser ces dernières accusations, affirmant que les utilisateurs ont dû au préalable donner explicitement leur accord. Facebook est aussi confronté depuis mardi à un appel au boycott lancé par l'Association de défense des droits des Noirs, la NAACP. Elle l'accuse d'avoir cherché à la discréditer via une agence appelée Definers, qui aurait cherché à la présenter comme ayant une liaison avec le milliardaire milliardaire George Soros, bête noire des républicains et cible de nombreuses attaques antisémites. Depuis 2 ans, le groupe de Mark Zuckerberg n'en finit plus de se débattre dans des scandales à répétition.
Merci de votre attention.